Voilà. Je vous exhorte, frères, Romains 16, verset 17. Dernière exhortation de Paul, avant de terminer sa lettre, après les salutations. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Paul vient de saluer toutes sortes de gens, disant « bien-aimés, compagnons d'œuvre, etc. Je vous les recommande, enfin, les saints, le Seigneur et tous ceux qui connaissaient là-bas à Rome. » Mais il y a aussi des gens dont Paul a probablement entendu parler, qui causent des troubles et des scandales. Oui. Et donc, vous savez, parfois nous, on a des gens comme ça et on se dit, mais est-ce qu'il y a que à moi que ça arrive? Ça arrivera toujours. Il y aura toujours des gens pour causer des problèmes. Hein?
Dans l'Église.
Dans l'Église. Enfin, quand on appelle dans l'Église, en tout cas, en relation avec l'Église.
En relation avec l'Église. Hein?
Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Donc ici, si vous voulez, on pourrait bien sûr s'arrêter plus longuement là-dessus. Et Paul d'ailleurs fait une description au verset 18. « De tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par de bonnes paroles. » Par de bonnes paroles. Oui, donc les paroles sont bonnes. Et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice ou des gens simples. Donc, il y a ce problème des faux docteurs, des fauteurs de troubles, dont il est parlé plus longuement dans la deuxième épître de Pierre, dans les épîtres de Jean aussi, et très sévèrement du reste. Et les apôtres, que ce soit Paul, Pierre ou les autres, sont sévères par rapport aux gens de ce type qui causent des divisions et des scandales, soit par leur doctrine, soit par leur conduite. Vous voyez? Il y a un esprit de division, ça existe. Vous avez des gens qui peuvent prêcher magnifiquement, qui peuvent même exercer des dons spirituels, mais qui ont un esprit de division. Et donc ces gens-là, parce qu'ils prêchent bien, parce que votre cœur est touché, parce qu'il y a même des fois, ils vous disent des choses, des paroles de connaissance, et vous dites waouh, il n'y a que le Seigneur qui peut savoir ça. Vous voyez venir. Et donc, vous avez les larmes aux yeux, et puis vous êtes touché au cœur, et patali et patala, et voilà. Et puis finalement, tout à coup, vous vous rendez compte que l'Église est en train de se diviser. Parce que par derrière, la même personne est en train de se. Vous voyez, cette personne n'est pas au service de Christ, du royaume de Dieu, elle est au service de son porte-monnaie, et elle veut prendre des gens de l'Église pour faire son Église, pour avoir les offrandes, etc. etc. En bref, c'est ça. Ça paraît incroyable, mais c'est ça. Et étonnamment, vous avez des gens qui ont des dons spirituels, qui ont des capacités, qui savent prêcher, mais dont les motivations ne sont pas les bonnes. Leur motivation, dit Paul, un peu crûment, c'est leur propre ventre. Celui qui est motivé par l'Évangile, comme disait Paul dans Philippiens chapitre 4, « J'ai appris à être content dans la disette comme dans l'abondance. Si j'ai rien à manger, je suis content. Si j'ai beaucoup, je suis content. Ce n'est pas un problème. Parce que moi, ce qui, comme disait Jésus dans Jean 4, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez ? Donc Jésus ne prêchait pas pour se nourrir. Paul ne prêchait pas pour se nourrir. Vous voyez ? Et ceux qui prêchent pour remplir leur ventre, leur motivation n'est pas juste. Ok ? Donc de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre.
C'est pas toujours une histoire d'argent.
Ça peut être des histoires de quoi ? Oui, ça peut être aussi le désir d'avoir le pouvoir, ça peut être... Ça peut être mélangé à toutes sortes de choses charnelles, hein. On est bien d'accord. Parce qu'il y a aussi le domaine, il n'y a pas que les divisions, il y a aussi les scandales. Donc, ceux qui font scandale, c'est que, aussi, il y avait différentes fausses doctrines à l'époque du Nouveau Testament. Il y en avait une qui allait dans le sens d'une sorte de licence où on permettait tout, une fausse grâce, une grâce dévoyée, si vous voulez. Donc, t'es chrétien, mais tu peux faire ce que tu veux par rapport au péché, c'est pas grave parce que le corps n'a pas de valeur, tout ce qui compte, c'est le monde spirituel. Et ça, c'était une sorte de proto-gnosticisme ou de gnosticisme tout court. C'était une pensée grecque qui méprise le corps. Et donc, dans cette pensée du gnosticisme, on n'est pas du tout dans la pensée de l'évangile qui est celle de l'incarnation, qui est celle de ce qui. Ou dans la pensée de l'évangile, ce que je fais avec mon corps a toute son importance. Mais on est dans une pensée grecque où le corps est méprisé, n'a pas d'importance, et ce qui compte, c'est les choses spirituelles. Et si vous voulez, étonnamment aujourd'hui, c'est des choses qui reviennent, et je dirais c'est justement les gens qu'on considère les plus spirituels qui peuvent être les plus dangereux. Faites attention. D'accord? Moi, je préfère des chrétiens qui ont un peu les pieds sur la terre, qui sont simples, droits et un peu factuels. Et puis, je préfère un bon darbiste, si vous préférez, qu'un charismatique, qui chasse des démons derrière tous les buissons. Vous voyez? Parce que moi, je suis charismatique, je parle en langue et j'aime les choses du Saint-Esprit. Mais à choisir, je préfère un bon darbiste quand je dis un bon darbiste, c'est un chrétien biblique qui connaît pas trop les choses du Saint-Esprit, mais qui est droit, qui vit une vie droite et qui est concret, qui est incarné. Vous voyez, je veux dire, dans la vie de tous les jours, et qui vit sa vie chrétienne de manière incarnée. Que des gens qui sont tellement spirituels, et puis quand vous regardez, vous allez chez eux. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas fait leur vaisselle, ça fait ils font pas leur ménage, ils payent pas leur loyer, mais alors ils vous donnent des prophéties à tomber par terre. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions, vous voyez? Donc c'est des gens qui causent des scandales. Et ces gens-là, ils existent. Hein? C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une sorte de déséquilibre, il y a une sorte de dichotomie entre des choses très spirituelles et très belles, et puis derrière, dans la vie pratique, il y a un gros problème. Ou bien il y a de l'alcool, ou bien il y a de l'impureté sexuelle, ou bien il y a des choses qui ne vont pas du tout, du tout. Le vase est impur. Vous voyez? Et si le vase est impur, l'eau que vous mettez dedans, même si c'est de la bonne eau au départ, elle est souillée avec. Donc faut même pas se servir là. Vous voyez? Faut tout rejeter en bloc. Sans pitié. Tout rejeter en bloc. Mais il a prophétisé quand même, le Seigneur m'a parlé. Je veux même pas savoir. Le vase est impur, n'accepte même pas la prophétie. Rejette tout en bloc. Je parle pas de. Quelqu'un peut être pur dans le sens de son cœur, et puis dans la prophétie qu'il apporte, admettons que tout à coup, à un moment donné, c'est plus l'homme que l'esprit qui a parlé, et là on peut faire la distinction. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est très spirituel, mais qui est impur. À quelque part, il y a un truc qui va pas. Ces gens-là sont vraiment dangereux. Qu'est-ce que dit Paul? Éloignez-vous d'eux. Point barre. Éloignez-vous d'eux. Il ne dit pas cherchez à les gagner, amenez-les à la repentance. Non, non, même pas. Éloignez-vous d'eux. Cherchez même pas le contact. Oubliez. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, si vous voulez, un grand danger quand des gens utilisent les dons spirituels, sont très très spirituels et vivent dans le péché. Ça devient très dangereux. Faut même pas y toucher. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Là, on parle des motivations. Et puis, il y a aussi un esprit de séduction. Ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Par des éloges, des flatteries. C'est des flatteurs. Vous voyez? Et les flatteurs, vous les reconnaissez, ils vont vous dire, mais je vois que le Seigneur t'appelle à être prophète des nations. Tu vas implanter des églises, tu vas. Puis alors, les gens, ils sont là, ils disent waouh, mais mon pasteur, il m'a jamais dit ça, moi. J'ai un grand appel, je suis quelqu'un d'important. Et puis donc, ils vous flattent par des paroles. Et puis ensuite, vous vous dites moi, je vais suivre ce grand prophète qui va me parler, parce que lui, il va me donner une place, il va me donner une position. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte, tout ça, c'est du vent. Et que poursuite de vent, vous voyez? Et le problème, c'est que, à force, si vous voulez, de compromettre votre pureté spirituelle et de cœur, finalement, vous ne savez plus où vous en êtes. Et c'est très dangereux. Ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Justement, le problème, comme dit un proverbe, le simple avance et il est puni. Le problème des gens sans malice, qui sont simples, c'est qu'ils ils voient pas le danger. Et ils se mettent à découvert. Ils voient pas le danger. Et donc on a besoin de se protéger les uns les autres. Et c'est pour ça que Paul dit juste après, soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Alors je m'explique, enfin, expliquons-nous là, sur cette phrase. Pourquoi est-ce qu'il faut être sage en ce qui concerne le bien? Parce qu'il y a des choses qui paraissent bien. Ces gens vous séduisent par des bonnes paroles. Mais il faut être sage. Même si ça a l'air tellement bien, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Vous suivez? Soyez sage en ce qui concerne le bien. Avalez pas tout. Même les gens les plus spirituels peuvent être les plus dangereux. Donc, ok, très bien. Vous écoutez, vous regardez. Et puis ensuite, vous dites, mais j'aimerais savoir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit chez elle. Vous voyez? Je connais un serviteur de Dieu. Souvent, il y a des pasteurs qui disent, moi, j'aimerais que tu me couvres spirituellement, que tu m'aides dans mon église, que tu sois mon apôtre, etc. Viens prêcher chez moi. Et lui, il répond, je ne prêcherai pas chez toi. On va passer 2 ans. Le contrat, c'est que pendant 2 ans, je viendrai te voir chez toi. Je verrai comment tu traites ta femme, comment tu traites tes enfants, comment tu gères ta vie. Et après, éventuellement, on collaborera. Vous voyez le truc? Ça, c'est sage. Parce que le gars, il peut avoir tous les dons, il peut être un prédicateur qui fait trembler les murs. Mais si derrière, il frappe sa femme, ses enfants sont malheureux, et puis il se conduit comme un... Il y a un souci. Vous voyez? Pour vous, verset 19, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Là, il parle bien sûr aux chrétiens de Rome qui ne sont pas dans ce cas-là. Et il dit, c'est à vous que je m'adresse, à vous dont l'obéissance à l'évangile, sous-entendu, aux préceptes que vous avez reçus. C'est-à-dire, quand Paul prêchait l'évangile et quand les apôtres prêchaient l'évangile, ils ne prêchaient pas seulement, si vous voulez, le fait qu'on est sauvé par la grâce, mais il prêchait aussi la vie chrétienne qui correspond à cette grâce qui nous a été donnée. Prenons un exemple dans l'épître de Tite. Tite, c'est après Timothée. Et juste avant Hébreux. Enfin, juste avant, il me semble. Non, juste avant Philémon. Et comme Philémon est très petit... Donc, si vous êtes dans Tite, chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète. » Donc, Paul avait évangélisé la Crète. Vous voyez, ça, c'est pas marqué dans les Actes des Apôtres. Mais il y avait eu un voyage missionnaire en Crète. Donc, ils avaient fondé des églises en Crète assez rapidement, établi des anciens. Et puis, Paul... qui n'a pas eu le temps de finir le travail, envoie Tite et dit « Bon, maintenant, tu vas mettre un peu d'ordre là-bas, dans tout ça, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Voilà. Et puis, il dit « Il faut que l'évêque, c'est-à-dire l'épiscopos, donc l'ancien, si vous préférez, il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, donc pas de polygamie, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni indiscipliné. » Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de sa famille, les choses soient si vous voulez, il ne peut pas éduquer l'Église s'il ne peut pas éduquer ses enfants. Donc il faut déjà qu'il règle les problèmes de famille avant de pouvoir régler les problèmes de l'Église. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable. Évêque, donc, il faut comprendre, épiscopos, c'est-à-dire surveillant, au sens de l'ancien surveillant, celui qui a un rôle pastoral, hein, ce n'est pas un évêque au sens catholique du terme. Irréprochable comme intendant de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'hospitalité. Ami du bien, censé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Donc il parle d'être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Et si vous arrivez maintenant au chapitre 2, verset 1, pour toi dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Et là, on se dit saine doctrine, donc dis que Jésus est mort pour nos péchés, dis que parle de la Trinité, parle. Non, 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 non. C'est quoi la saine doctrine pour Paul? Regardez. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés. Saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent être aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari. Là, il y a tous les féministes qui s'arrachent les cheveux, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, etc., etc. Les esclaves soumis à leur maître doivent leur plaire, ne pas être contredisants, ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu. En d'autres termes, la saine doctrine, c'est-à-dire qu'il faut que la vie des chrétiens reflète le Christ qu'ils prêchent. Vous suivez? La soumission, la droiture, la fidélité, la chasteté. La chasteté, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que. Comment dire? Ça veut dire qu'on est. La sexualité ne se vit que dans le mariage et que y a pas de. Voilà, on ne cherche pas non plus à attirer les regards au niveau de l'habillement et tout ça. C'est dans ce sens-là qu'il le dit. Maintenant, ça aussi, c'est des termes dont on ne parle plus aujourd'hui. Mais ça fait partie de la saine doctrine pour Paul. Et donc si je reviens maintenant dans Romains, qu'est-ce qu'il dit? Pour vous, votre obéissance est connue de tous. C'est à ça qu'il pense, Paul. Votre obéissance, ça veut dire que vous vivez pratiquement dans votre vie quotidienne, familiale, dans vos échanges commerciaux, dans votre travail, vous reflétez l'enseignement de Christ. Vous voyez? Vous êtes obéissant. Vous n'êtes pas sujet de scandale, de division. Vous ne créez pas une nouvelle doctrine pour cacher votre péché. Vous n'êtes pas des super spirituels qui vivent n'importe comment. Vous êtes obéissant, tout simple. Et ce que Dieu a besoin, ce n'est pas d'exploits spirituels, oui, je veux dire de déplacer une montagne tous les jours et de faire tomber la pluie là où il y a le désert. C'est notre obéissance. Parce que lorsqu'on est dans cette droiture, cette vérité, cette obéissance, à ce moment-là, quand Dieu nous utilise surnaturellement pour faire des choses, il y a un fruit qui est bon. Vous voyez? Notre vie chrétienne, elle doit être incarnée. Il n'y a pas que le spirituel. Les dons spirituels, c'est important. Tout ça, c'est important. Je ne suis pas en train de dénigrer du tout. C'est important. On a besoin de voir la puissance de Dieu aujourd'hui pour que les gens soient sauvés, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais si à côté de ça, notre vie ne reflète pas la vie de Christ, alors ce sera pire que s'il n'y avait pas eu de don spirituel. Vous suivez? Vaut mieux qu'il n'y ait pas de don spirituel et qu'il y ait au moins une vie conforme, que beaucoup de dons spirituels et un spectacle extraordinaire, et puis derrière un sujet de scandale et de division. Vaut mieux. C'est ça que Paul est en train de dire. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Littéralement, écrasera rapidement Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Pourquoi est-ce que Paul parle ici de cette victoire sur Satan? Bien sûr, il fait allusion à Genèse chapitre 3, la prophétie à Ève, quand il est dit que sa postérité écrasera le serpent. Okay? Le serpent a été écrasé, le diable a été écrasé au moment où Jésus-Christ est mort à la croix. C'était une prophétie qui concernait Jésus dans Genèse 3,15. Mais ici, quand Paul dit que l'Église va bientôt écraser Satan, ça veut dire que l'Église applique la victoire de la croix dans son combat spirituel de tous les jours. Et il y a un combat spirituel. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines. Il y a des scandales, des divisions, etc. Mais il dit, mais malgré tout ça, vous inquiétez pas, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Donc, on pourrait s'arrêter aussi sur l'expression le Dieu de paix. La paix, c'est une réalité qui est très importante dans le combat spirituel et dans le travail de l'Église. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, souvent, enfin, je crois à plus d'une reprise, il est dit « l'Église était en paix dans toute la Judée, etc. » Une Église qui est en paix, c'est justement une Église qui n'a pas de division. C'est une Église où il y a de l'ordre, où ceux qui causent des scandales et des divisions, on s'en éloigne et on reste dans la paix. Vous voyez ? Il n'y a pas de lutte intestine, intérieure, qui détruise l'Église. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister, dit Jésus. Vous voyez ? Et donc, la paix de Dieu, c'est très important. Ok ? Et lorsque l'Église est en paix, elle a autorité sur les puissances de ténèbres. Et quand l'Église est divisée, elle perd son autorité. Vous voyez ? Alors oui, Jésus a dit, dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. » Donc on a cette autorité, mais dans la mesure où on vit dans cette paix, voyez ? Et on ne laisse pas cette division, ce scandale et ces choses détruire l'Église et détruire l'autorité de l'Église. Quand vous avez une Église qui est disciplinée comme une armée, avec le respect de l'autorité, une vie saine, pure, cet amour, voyez, comme on l'a vu dans Romains chapitre 16, dans les salutations, quand vous avez une Église qui est comme ça, elle a une sorte d'autorité, de force. Vous savez, le combat spirituel, c'est avant tout être dans la pureté. L'ennemi ne peut pas nous attaquer à ce moment-là. Celui qui est dans l'amour, c'est Jean qui dit, celui qui aime ne peut pas tomber. Pas difficile. Donc être dans l'amour, être dans la pureté, c'est la majeure partie du combat qu'on mène. Et une fois que l'Église est dans cette paix, dans cette attitude, dans cette solidité, cette obéissance, elle a autorité. Si vous êtes désobéissant à Dieu, les démons ne vous obéiront pas. Vous voyez, parce que le monde spirituel est un monde qui est hiérarchisé. Si vous-même vous êtes désobéissant, vous n'aurez pas d'autorité. C'est clair. C'est comme ça. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et souvent, en parenthèse, ceux qui provoquent les scandales et qui les divisions, c'est des gens qui sont justement pas sous autorité et qui veulent faire seulement ce qu'ils ont envie de faire. Vous voyez ? Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater. Et Sosipater, probablement, c'est Sopater qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Mes parents, est-ce que ça veut dire qu'ils sont juifs comme lui ? C'est probable. Ensuite, tout à coup, c'est plus Paul qui parle ici, c'est le secrétaire de Paul qui s'appelle Tertius. Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur. C'est marqué comment dans ta traduction, Martine ? Ce verset 22 de Romains.
Je cherche le verset.
22.
Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur.
Voilà. Voilà. Oui, parce que je vous salue, moi, Tertius, qui écrit cette lettre dans le Seigneur, c'est plutôt la salutation qui est dans. Je vous salue dans le Seigneur.
Je vous salue dans le Seigneur.
Voilà, ça paraît plus logique. Hein. Mais bon, dans l'ordre du. Si vous voulez, là, il y a des traductions qui sont plus ou moins littérales. Mais si vous voulez, l'ordre des mots en grec doit pas être. Si vous le reproduisez en français tel quel, ça peut même changer le sens de la phrase. Il faut quand même trouver l'équivalent dynamique, hein, dans une traduction. C'est donc ce Tertius qui a écrit pour Paul et qui a tenu lieu de secrétaire. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue de nouveau cette affaire d'hospitalité. Eras, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Alors, ici, c'est les salutations du secrétaire. Ok ? Qui donne des salutations des gens de là où ils habitent avec Paul. Et il envoie quelques petites salutations au passage. Vous voyez ? Il y avait un certain trésorier de la ville. Donc, vous voyez qu'on a des nouveaux convertis. dans toutes les branches de la société romaine de l'époque. Et puis, verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Peut-être que, alors, si vous voulez, on a différents manuscrits de l'épître de Paul aux Romains. Certains manuscrits s'arrêtent à 14-23. Et ce qu'on appelle la doxologie à la fin, verset 25, à celui qui a le pouvoir de vous affermir sur mon évangile, etc., jusqu'au 27. Cette doxologie, des fois, elle arrive à la fin du chapitre 14. Il n'y a même pas le chapitre 15. On pense que ces manuscrits-là, ces recensions-là, viennent de Marcion. Marcion était un faux docteur qui était contre l'Ancien Testament et qui estimait que le Dieu des Juifs était un Dieu méchant et que le Dieu des chrétiens était un Dieu bon. Donc c'était vraiment une fausse doctrine. Et donc il avait supprimé du Nouveau Testament tout ce qui l'embêtait. Et comme dans le chapitre 15, il est beaucoup parlé du fait, il est bien dit clairement que Dieu a d'abord annoncé l'Évangile aux Juifs. Alors, il a enlevé le chapitre 15, et puis il a repris la doxologie, donc la conclusion de Paul, hop, et puis il l'a mis à la fin du chapitre 14. Vous voyez? Ce qui expliquerait, sa doctrine expliquerait le fait qu'il y a des documents, le chapitre 15 a disparu, et même 16 a disparu. Donc, c'est ceux qui font ces recensions de documents qui nous donnent ce qu'on a actuellement, qui semble être le plus proche de vraiment ce que Paul avait écrit, si vous voulez. Donc, on va lire cette fameuse doxologie, verset 25. « À celui qui a le pouvoir de vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, en vue de l'obéissance de la foi, à Dieu seul sage, la gloire, par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. » Alors ici, Paul résume un petit peu toute la pensée de l'Épître aux Romains, si on peut dire. D'accord? Et on retrouve dans cette doxologie des accents des tout premiers versets de l'Épître aux Romains. Par exemple, « Mon évangile ». Vous voyez? Et puis ensuite, quand il dit « les écrits prophétiques ». Et puis aussi « toutes les nations ». Ça, c'est des expressions qui reviennent dans les premiers versets de l'Épître aux Romains. Mais qu'est-ce que Paul dit, en fait, ici, en bref? D'abord, Dieu a le pouvoir de vous affermir. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Ça veut dire que on est entre notre découverte de Christ et le moment où Christ viendra chercher son Église ou bien viendra nous reprendre. On est dans une marche. Et dans cette marche, il y a des tribulations, des épreuves, des difficultés, on peut être découragé, etc. Mais il dit, mon Dieu a le pouvoir de vous affermir. Amen. Donc il faut s'accrocher à cette promesse. Quand Paul dit selon mon évangile, c'est dans le sens l'évangile que je prêche, que Dieu m'a donné de prêcher. D'accord? Donc c'est un évangile qui est bien précis, que j'ai reçu par révélation. Et la prédication de Jésus-Christ. Parce que, bon, ce qui revient au même, l'évangile c'est la prédication de Jésus-Christ, entre parenthèses. Simplement que dans le mot évangile, il y a tout l'enseignement qui va avec. Conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. C'est-à-dire que l'évangile, le fait qu'on puisse recevoir la grâce de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, que Christ vienne habiter dans nos cœurs, enfin, tout ça, c'est le mystère de Dieu, qui est révélé seulement, ce que Paul appelle la fin des temps, c'est à partir de la naissance, de la crucifixion, de la résurrection, on est dans la fin des temps. On est dans la fin des temps depuis 2000 ans, bibliquement parlant. D'accord? Et donc, à la fin des temps, Jésus est venu pour que ce mystère de l'Évangile soit révélé. Donc pour nous, le mystère, il est révélé, c'est plus un mystère, mais c'était mystérieux jusqu'à la venue de Jésus-Christ, parce que les prophètes, ils avaient discerné ces choses de loin, mais ce n'était pas clair pour eux. Vous voyez? Il y avait des hommes dans l'Ancien Testament qui avaient vu les choses arriver, mais ils auraient voulu en avoir plus, c'était comme un avant-goût. Et nous, on a, comment dire, on voit les choses clairement, donc le mystère est révélé, vous voyez? Dans ce sens-là. Manifesté, donc, verset 26, maintenant, par les écrits prophétiques. Donc, quand il est dit par les écrits prophétiques, ça veut dire que ce que Jésus a été et l'évangile qui est prêché correspond aux prophéties de l'Ancien Testament. Mais ces prophéties, avant que Jésus vienne et que les apôtres prêchent, les Juifs les lisaient dans les synagogues, mais ne les comprenaient pas. C'était comme voilé pour eux. C'est pour ça que Paul dit que encore maintenant, quand ils lisent la Torah dans la synagogue, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Ils ont les prophéties sous leurs yeux, mais ils ne les comprennent pas. Vous voyez? Et souvent, il y a des choses que Dieu nous a dites, et sur le moment, on ne l'a pas compris. Et c'est plus tard qu'on dit, ah, mais Dieu me l'avait dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là. D'après l'ordre du Dieu éternel, donc ce mystère de l'Évangile a été qui avait été tenu secret est maintenant manifesté, d'autant plus que les écrits prophétiques correspondent et que tout à coup on les comprend, voyez. D'après l'ordre du Dieu éternel, parce que c'est Dieu qui a décidé, c'est maintenant, et puis porté à la connaissance de toutes les nations, comment? Par la prédication de l'Évangile, évidemment, d'accord? La prédication de Paul en particulier, qui vient apporter cette bonne nouvelle partout dans l'Empire romain. Donc porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que cet évangile qui est prêché, ce n'est pas juste pour dire il y a une bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire, vous pouvez vous en laver les mains, ce n'est pas grave, vous êtes tous sauvés automatiquement. Non, non, non. C'est en vue qu'il y ait une obéissance de la foi. Hein? Et cette expression d'obéissance de la foi, elle est déjà dans Romains chapitre 1, donc on en avait parlé. À Dieu, seul sage. La gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Voilà la conclusion de l'épître aux Romains. Et je vais vous lire, j'ai trouvé ça dans un commentaire, je trouvais intéressant, je vais vous lire un avertissement de William Tyndale, qui était un grand homme de Dieu en Angleterre et qui s'est occupé de la traduction de la Bible, et qui dit: Maintenant, lecteur, va et agis conformément à l'ordre que Paul donne dans son écrit. Contemple-toi d'abord dans la loi de Dieu et découvre ta juste condamnation. Tourne ensuite tes regards vers le Christ et contemple la grâce surabondante du Père, le plus aimant qui puisse exister. Puis souviens-toi que le Christ n'a pas accompli son œuvre d'expiation pour qu'à nouveau tu irrites ton Dieu. Souviens-toi, il n'est pas non plus mort pour tes péchés, afin que tu continues de vivre dans ses péchés. Souviens-toi qu'il ne t'a pas purifié pour que tu retournes te vautrer dans ton ancienne fange, mais pour que tu sois une créature nouvelle et que tu vives une vie nouvelle, conforme à la volonté de Dieu et non à celle de la chair. Prends garde, de peur que ta négligence et ton ingratitude ne te fassent à nouveau perdre cette faveur et cette miséricorde. Voilà la conclusion. Donc, on a donc un retour sur tout ce texte, ce contenu de l'Épître aux Romains. Vous pouvez relire cette épître. Et une des choses que je vous conseille, c'est quand vous lisez une épître de Paul, essayez de la lire d'un bout à l'autre. Parce que vous n'arrêtez pas sur tous les versets, si vous voulez. Vous faites une lecture globale. Et cette manière de lire la Bible de temps en temps, il ne faut pas faire ça tout le temps, ça vous remet les idées en place. Vous voyez? Ça vous lave, ça vous purifie. C'est comme une douche que vous prenez. Voyez? Et ça vous protège. Et ça vous remet dans le bon axe. Voyez? Et parfois, on est un peu désaxé, on est un peu, voyez, comme un train, on déraille un petit peu. Et si vous voulez ne pas dérailler, vous prenez une épître comme ça, vous la lisez du premier verset jusqu'au dernier verset, d'un seul coup. Et après, vous verrez que ça fait du bien. Amen? Ce n'est pas juste un médicament, hein, il faut aussi la mettre en pratique. Mais je veux dire par là que, ça, comme on l'a étudié ensemble de mercredi en mercredi depuis quelques semaines, eh bien,
il y a des choses qui vont
en la relisant comme ça d'un seul bloc, ça vous permettra de replonger dedans. Ça vous parlera différemment parce qu'on a pris le temps de la prendre un peu chapitre par chapitre et parfois verset par verset. Et ça vous fera le plus grand bien. Alors je vous donne ça
Devoir
comme devoir de vacances, exactement. Amen. Que Dieu vous bénisse et normalement on se retrouve le 10 janvier.